deux minutes. Denis Gravel est en place, tout sourire. Pascal est là, est encore un peu traumatisé, mais tout va bien aller.
C'est l'histoire de ma vie.
Les choses ont tellement changé. On se rappelait comment on était cabotin dans le temps. Ce qu'on écoutait, on allait au cinéma pour voir les Jackass.
Incroyable.
On écoutait Howard Stern aux États-Unis qui réalisait des performances qu'aujourd'hui, il se ferait canceller.
Écoute, j'ai visionné hier soir, c'est disponible sur Prime depuis quelques jours, le documentaire sur Tom Green. Est-ce que vous vous souvenez de Tom Green?
Oui.
Celui qui buvait à même la vache, là.
Lui, il a été le conjoint de Drew Barrymore.
Oui, il a été marié pas longtemps avec Drew Barrymore.
Est-ce qu'elle allait bien?
Au sommet de sa gloire. Tom Green qui faisait une émission de TV sur les télévisions publiques à Ottawa. Et il a été repêché par MTV. Puis Tom Green, c'est le premier qui a fait du Jackass. Il a fait du Jackass avant Jackass. Tom Green a fait de la TV, Internet et du podcast à une époque où ça n'existait pas. Ça a été un visionnaire.
Mais étais-tu vulgaire? Étais-tu déplacé ou il était juste téméraire?
Il était très graphique. Très, très, très graphique. Il allait dans la rue confronter les gens, puis ainsi de suite. Il aimait les trucs dégueulasses, là. Mais c'était une époque, puis... Tu sais, je regardais le documentaire hier, puis je me souvenais plus beaucoup de Tom Green. Puis en m'en souvenant, je me suis dit, je peux plus critiquer mes gars qui écoutent des tweets sur YouTube parce qu'on a écouté pire qu'eux autres.
Ouais. Ça t'inquiète pas de voir où qui t'es devenu?
Non, mais moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est comment une nouvelle génération s'affirme. Tu sais, on parle beaucoup des woke là, depuis une couple d'années.
Oui.
Puis notre génération, à nous autres, ça a été beaucoup par la violence et l'agressivité qu'on s'est manifesté. Tu penses à Woodstock 99, tu penses à la musique du temps, tu sais, Break Stuff, Limp Bizkit, la hang de Korn. T'avais South Park qui défonçait les barrières à une époque où écouter les Simpsons, c'était considéré comme edgy.
Mais c'était une partie de votre personnalité parce que, je veux dire, il y avait
on
aussi beaucoup
tirer
de bon
des,
monde.
On faisait tirer des implants mammaires en
ah, ça, sérieux.
Ça, c'était le bon temps.
Le bon temps, c'était le temps. Hein? Je vais m'empêcher de le qualifier. Mais mettons que cette époque-là, c'était à grandeur de la planète. Il se faisait beaucoup de choses qu'on regarde aujourd'hui puis qu'on se dit, tabouère, on n'avait pas d'allure.
Faut pas avoir les yeux de 2025. Parce que,
tu peux pas.
T'sais, quand tu regardes ça, ce qui se passait dans les années 2000 ou dans les années 80 ou 90, je parlais avec un grand de la radio de l'époque, il y a de ça quelques semaines, puis il me racontait des histoires qu'il avait faites des années 70-80. Ça avait comme pas de bon sens ce qu'il avait fait. Puis aujourd'hui, ça serait totalement inacceptable. Mais là, on était là. On essayait, je pense, de repousser constamment les limites. Il essayait de se faire remarquer.
C'est toujours l'idée de dire le monde que vous nous proposez, nous autres, on n'en veut
exact.
Pas. Puis les woke, c'est un peu ça aussi, là, de dire vos codes à vous autres, nous autres, ils nous conviennent pas. Puis c'est pas fait de la même façon, c'est pas fait avec les mêmes valeurs puis les mêmes objectifs. Mais il y a une période de vie, probablement entre 16 et 25 ans, où tout ce que tu as le goût de faire, c'est brasser de la marde pour shaker un peu le cadre établi autour de toi.
Dire aux gens que tu existes, j'imagine.
Exact, exact. Mais j'écrirais un livre là-dessus où j'irais assister à un cours universitaire là-dessus parce que je trouve ça fascinant. Puis on a beaucoup de bons documentaires là, qui nous replongent dans ces époques-là. Moi, ça m'a replongé dans des souvenirs que ça faisait longtemps que j'avais pas visité dans ma tête.
Ouais, moi, j'avais retombé sur les premiers Jackass. Puis ça me fait encore rire.
C'est incroyable.
Dernier Jackass que j'avais vu, je pense que c'était au cinéma, c'était deux nains qui étaient assis au bord. Puis c'était un gars et une fille, puis ils semblaient se croiser. Puis à un moment donné, le vrai chum de la fille, qui est naine aussi, puis lui, c'est un nain, il vient voir les deux autres nains pour dire « Hey, qu'est-ce que tu fais avec ma blonde? » La chicane pogne, puis là, tout d'un coup, la police naine arrive dans le bord.
Tous ceux qui sont impliqués, c'est des nains.
Mais ça me fait beaucoup rire, parce qu'ils ont tous voulu le faire, puis je trouve que c'est testé sur les humains.
Les ambulanciers, ils arrivent, c'est des nains avec la civière. Puis là, t'as les grandes personnes qui sont autour, puis ils disent, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Il y a juste des nains partout.
La réaction est le fun à constater.
Mais je montre ça à mes gars. Si je montre ça à mes gars aujourd'hui, puis je ris, ils vont dire, papa, tu ris des nains?
Ouais. Mais c'est pas ça.
Non! On rit de la situation. Puis dans le temps, c'était drôle. Il y avait le fameux lancer du nain aussi.
Oui, ça existait, ça, à Québec.
La fameuse patate dans le cul.
Aussi, oui. Aussi.
Ben, lance-patate dans le cul.
C'est là où, quand ça vient, mettons, discriminer...
On avait du fun, Pascal.
...par la superficialité, c'est là où moi... Non, mais t'as le droit. T'as le droit encore de trouver ça drôle. Mettons, moi, le contexte avec le théâtre puis avec tous les nains impliqués puis qui débarquent, je trouve ça hilarant. Ils ont voulu le faire. Mais la patate dans le cul... Puis le lancer du nez, je pense qu'ils ont voulu le faire pour l'argent en arrière de ça. Puis c'est comme un peu c'est de la discrimination.
En 25 ans, ouais. on est passé de lancer des nains dans un bar à pas prendre de nains pour des rôles de nains à la télévision là, pour ouais. pas stéréotyper des nains. Ouais.
C'est un peu problématique.
On vit d'un moment plate.
On est passé d'un ouais. extrême à l'autre. Ouais. Ça, j'en conviens.
Puis tu sais, c'est la même chose. Mettons, on revient ici en radio, en studio. Très honnêtement, si j'avais pas le droit de parler de politique en studio, puis que je serais juste là pour les jokes de sexe à Yannick, et, etc. Puis qu'en plus, il fermerait mon micro quand je dis quelque chose qui n'est pas en accord avec lui et je pousse encore plus loin. Si j'étais juste une yes woman, comme ça a déjà été demandé à tellement de femmes pas si loin d'ici et pas si il n'y a pas si longtemps.
Non, pas besoin de reculer de 50 ans.
On s'entend-tu? Puis même personnellement, je ferais pas ça. Ça,
c'est une façon détournée de dire qu'elle est avec toi pour le meilleur et pour le pire.
Non,
c'est très, très beau.
S'il te plaît.
C'est un beau compliment qu'elle vient de te faire.
S'il te plaît.
Ce matin, j'ai vécu un moment exceptionnel.
Il était là, Denis!
J'avais Thomas Perrin.
Oui!
Qui est un gars qui essaie d'immigrer ici. C'est notre ami français, le spécialiste de la F1 que vous avez entendu sur les zones de boulevard.
Un passionné, un Moses de bon bonheur.
Les exemples que je viens de donner, il va le faire, OK? Écoutez bien.
J'essaie de trouver une solution pour qu'il puisse rester en sol québécois. Puis là, ben, j'essaie de trouver quelqu'un avec qui il peut se marier.
Un époux ou une épouse.
Fait que, tu sais, on commence par la cause désespéré. Je m'en vais voir Max Larouche. Mmh. Puis je dis, tu peux-tu te marier avec Thomas Perrin? Faudrait qu'il reste ici.
C'est un très bon chum à Thomas.
Max n'a pas dit non.
Ouais.
Fait que là, j'ai dit, tu pourrais même te marier avec Pascal. Puis là, Tom a dit non.
Ouf, non.
Il a dit non, jamais. Il dit, je suis pas aussi désespéré que ça.
Il a fait wesh.
Mais moi, je la connais, cette technique-là. Là. Je la connais. Là. C'est repousser c'est pour attirer. Là.
Ah, tu penses c'est ça? Ah. Depuis ce temps-là, tu penses à lui? Ça a marché?
Non, malheureusement. Malheureusement.
Moi, je ris encore de ces jokes-là. Puis je comprends les gens qui regardent ça avec leurs yeux là, en 2025 et disent hey, dans ce temps-là, ça n'avait pas de bon sens. Mais c'était l'époque.
On a réécouté
on était fous puis on aimait ça.
On a réécouté les Jackass récemment en rafale. Puis je peux pas te dire que j'ai pas ri.
L'as-tu fait avec tes gars?
Non, avec ma blonde. Mais tu sais, on a ri tout le long. Puis c'est devenu un rire coupable. Mais
sur quelle scène, mettons? Parce que les détestables, sans faire du Jackass, sont capables aussi de se manger. Mais
les détestables se brochaient pas les testicules ensemble.
Ah, mais ça, là, c'est un rire coupable. C'est stupide, mais ça fait pas de mal à personne à part au gars broché qui a choisi d'être broché.
C'est-tu l'autre avec son skate qui se pitche dans des... les arbres du désert, là?
Des cactus.
Oui, il était avec son skate et il se pêche des cactus. Ils ont tous fait ça.
Mais ça vous faisait pas mal. Moi, je suis pas capable de regarder ça parce que j'ai mal.
Et le gars pèse 400 livres. Tout le temps, il se relève de là.
Ils ont fait plein d'affaires dégueulasses, mais moi, l'affaire qui m'a écœuré le plus, puis ça fait plusieurs fois que je regarde le film original, puis cette scène-là, je suis pas capable de regarder, c'est quand il se coupe avec du papier.
Oui.
Ouais. Paper cuts.
Vous riez, ça vous fait pas mal. Il y a tellement deux humains.
L'idée, c'est de s'installer, mettons, une feuille entre deux orteils, puis là, swish! Moi, ça, je suis pas capable.
Ça n'avait pas de bon sens.
Les broches des testicules, je peux regarder, mais les coupures de papier entre les doigts et entre les orteils, là, c'était too much.
Moi, le rire par le mal, je le catch pas.
Le gars de Jackass, quand il est venu à Québec, Steve-O. Il est passé par le Dagobert puis il s'est broché les chenolles.
C'était plein. C'était sold out. Tout le monde n'a pas pu rentrer au DAG ce soir-là.
C'est un type d'humour qui me fascine.
Les gens sont allés là pour voir un gars se brocher la poche.
Ouais. En live.
Une vasectomie live et artisanale.
Ah, moi, je file pas, juste si tu me le dises.
Tout était parfait. Ouais, hey, pour bien faire, il faudrait que je fasse une pause, mais j'ai pas de pause. Fait qu'on va jaser un peu de ce qui nous touche. Puis peut-être se rappeler aussi qu'à pareille date, en 2017, est survenue une histoire épouvantable qui, dans 100 ans, on va encore se souvenir de ça, j'imagine, le fameux massacre à la mosquée d'Alexandre Bissonnette.
Une des pires tueries de l'histoire du Canada.
T'étais où, toi, quand tu l'as appris?
J'étais chez nous, niaiseux de même. Je restais à Beauport à l'époque, puis je me souviens à quel point il y a eu de la fausse information qui a circulé rapidement.
Il y avait trois tireurs au début.
Ouais. Alors que tu regardes ça rétroactivement, puis j'ai beaucoup lu là-dessus ce matin, parce que je me posais des questions, ou encore aujourd'hui, on n'a pas nécessairement les réponses. Mais tu sais, dans l'ordre chronologique des choses, le tireur s'est rendu au policier pas très longtemps après les gestes.
Il était sur Dufresne Montmorency.
Oui, mais pendant une longue période, et il y a des gens qui disent encore aujourd'hui que c'est le cas, il y avait plus qu'un tireur, il y avait des conspirationnistes avant la pandémie, on vous le rappelle. Donc, évidemment, c'est des choses qui ont collé. Et très rapidement aussi, on avait désigné des coupables. Ça, c'est l'autre souvenir que j'ai instantanément, je pense, dès le lendemain dans la presse. On parlait pas du tireur, on parlait pas de la mosquée, on parlait des radios de Québec qui étaient responsables avec des grands titres, des propos qu'on avait beurrés bord en bord, qu'on était allé chercher sur 10 ans. On voulait mettre ça sur le dos de la radio. Et dans le procès, ben, un juge, à un moment donné, s'est senti le devoir d'intervenir pour dire que les médias n'étaient pas à blâmer dans la tuerie de la mosquée et qu'il fallait chercher les réponses et les causes ailleurs. Pour qu'un juge se sente obligé d'interpeller le sujet à l'époque, ouais, c'est que du monde qui avait vraiment exagéré là-dessus.
Puis on l'a peut-être échappé belle, c'est quoi que c'est drôle à dire quand même, parce qu'il y a eu malheureusement 6 morts, 19 blessés cette soirée-là, mais c'est la semaine d'avant ou dans le procès. T'as-tu couvert ce procès-là, toi, Pascal?
Oui, avec les images.
C'est
aussi
la semaine d'avant ou peut-être quelques jours plus tard, Alexandre Bissonnette avait été à Place Laurier.
Oui.
Puis, il était dans un stationnement souterrain. Il était prêt à faire exactement ce qu'il voulait faire peut-être plus tard à la Grande Mosquée de Québec. Puis quand il est arrivé pour sortir de sa voiture, il a vu une caméra de surveillance. Puis là, il a cru à ce moment-là qu'il avait été identifié ou vu par les agents de sécurité. Fait qu'il a décidé de sacrer son camp.
Exact.
Ça aurait été épouvantable, quoique la Grande Mosquée, le massacre qu'il y a eu, ça a été effectivement épouvantable. Mais moi, je me souviens, ça va être marquant toute ma vie. J'étais chez moi, j'étais en train d'écouter tout le monde en parle. J'étais sur mon petit sofa.
C'est vrai, c'est un dimanche. Hein? Tu me rappelles que c'est un dimanche.
Comme un bonhomme. Puis je regardais ce qui se passait sur Twitter. Puis à un moment donné, je vois un auditeur qui m'écrit « Yann, je suis à côté de la mosquée, puis il y a des coups de feu. » Puis je dis, qu'est-ce que tu veux dire des coups de feu? Là? C'est les policiers qui ont ouvert le feu? Non, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Fait que là, j'appelle DH de l'époque, puis je dis, je m'en vais à la station, il se passe de quoi à mosquée? Je suis descendu de Sainte-Marie-de-Beauce jusqu'à Québec. Je salue le policier qui m'a flashé les lumières. D'après moi, il s'en allait à la même place que moi, mais il m'a flashé les lumières sur le pont La Porte. Puis c'était bizarre. On arrive là, on rentre en onde. Puis moi, j'ai rien, je suis seul, mais je sais que les collègues s'amènent parce que, veux pas, on avait un canal où on se jasait.
Oui.
Je suis seul, j'ouvre les lignes, je dis, si vous êtes dans le secteur de la mosquée, appelez-moi, je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Mmh. Et on a passé 4-5 heures en onde ce soir-là avec des témoignages, des gens qui avaient de la famille à l'intérieur de la mosquée, des gens qui avaient été victimes, qui avaient réussi à se sortir de là. C'était une soirée épouvantable à vivre.
Puis là, on est en 2025. Ça fait 8 ans, tout ça. Il y a des choses encore qui ne sont pas nécessairement éclaircies. Puis moi, je veux savoir comment quelqu'un se rend là, tu sais. Parce que je lisais ce matin, tu sais, dans les rapports, dans les descriptions, c'est un gars qui en voulait vraiment aux immigrants au point où il pensait que des terroristes allaient s'attaquer à sa famille. Mm. Comment tu te rends là? Comment on entretient ça? Comment on n'adresse pas ça? Comment quelqu'un qui pense ça camoufle ça? Parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de l'environnement, on n'a pas beaucoup parlé de la famille. Moi, c'est des choses qui m'intriguent encore aujourd'hui.
La santé mentale, l'isolement. On a vu le même portrait type avec Kim Vergil, qui avait tué Anastasia de Souza, si je ne me trompe pas. C'était au collège Dawson, de mémoire. Puis c'était un gars qui était seul, qui était dans son sous-sol, qui, entre les deux oreilles, ça n'allait pas. Propriétaire d'armes à feu, même affaire pour Alexandre Bissonnette.
Ouais.
Propriétaire d'armes à feu. Puis c'est bel et bien dit. Hein. Si vous avez un collègue ou un ami qui est propriétaire d'armes à feu, puis vous savez qu'il ne va pas très bien, vous pouvez appeler la police pour dire, entre les deux oreilles, ça ne va pas. Vous pourriez peut-être lui retirer ses armes le temps qu'il fasse un peu d'ordre dans sa vie. Puis malheureusement, dans le cas Kim Vergil, ça n'avait pas été fait, alors que son père, qui était au deuxième étage, savait que son fils allait crissement pas. Puis ça a été la même affaire pour Alexandre Bissonnette. Les gens qui travaillaient avec Alexandre Bissonnette savaient que le gars, il était weird as fuck, là. Et même affaire pour ce qui est de ses amis. Son frère aussi avait remarqué qu'Alexandre Bissonnette allait pas du tout.
Mais tu sais, on présume que...
Il n'y a rien qui s'est fait.
On présume que weird, c'est weird original ou weird crise d'adolescence.
Weird
ou
freak,
là. Tu sais, c'est pas weird tuer du monde.
Exact.
Tu comprends-tu la marge entre les deux? Puis j'imagine qu'on présume toujours le mieux quand c'est quelqu'un de nos proches. Tu sais, souvent, quand quelqu'un va être accusé au criminel, puis c'est quelqu'un qu'on connaît depuis des années.
On pensait pas ça de lui.
Ben, on l'a vu avec Guy Cloutier. Voyons, ça se peut pas, c'est mon ami. Lise Payette a déshonoré sa fin de carrière en défendant un de ses amis d'agression
Claude
pédophile,
Jutras.
Claude Jutras, effectivement.
Mais c'est une
ça
protection.
Se peut pas, c'est mon ami.
C'est une protection émotive, puis elle est super dure à enlever, à déconstruire.
J'imagine.
Parce que tu le connais, toi, cet individu-là, d'une toute autre manière. T'as vraiment pas envie d'être la personne, c'est pas coupable au sens de la loi, mais coupable de ne pas avoir vu ça chez cette personne. Fait que la façon de se protéger, parce que t'as pas été capable de le voir, puis t'as pas été capable de protéger d'autres personnes de ces comportements-là, c'est de te dire inconsciemment, consciemment, non, c'est pas vrai. C'est une bonne personne. C'est pas parce qu'elles sont des mauvaises personnes, les personnes qui vont se commencer à dire ça, ils sont juste pognés dans une genre de cage extrêmement émotive.
Tu sais, on peut regarder les interrogatoires d'Alexandre Bissonnette qui sont disponibles sur YouTube, soit dit en passant. Puis à un moment donné, l'enquêteur dit « Oui, les gens sont décédés. » Hein? Sont décédés? C'est comme s'il n'était pas capable de faire le lien avec ce qui s'était passé. J'ai entendu les appels aussi, alors qu'il était sur Dufresne-Montmorency. Je te dirais peut-être 200 à 300 mètres juste avant le pont de l'île d'Orléans, où là, il parle avec un gars du 911 qui avait un sang-froid incroyable, qui a dit « Alexandre, on est avec toi. Puis comment ça va? T'es-tu armé? » Puis là, les policiers vont venir te voir et tout ça. C'est comme s'il était comme pas au courant de ce qui s'était passé.
Puis en même temps, ben dans le procès, ça a été établi qu'il a feinté une psychose parce qu'il voulait invoquer la non-responsabilité criminelle. Puis quand les psys l'ont pas cru, Yann, il a changé de stratégie puis il a décidé de plaider coupable. Donc, est-ce que déjà là, il commençait à jouer son rôle? Ça, je peux pas te le dire. T'sais, on parlait des époques, à quel point ça a changé. Puis on parlait de quelque chose de beaucoup plus léger tantôt avec les Tom Green, avec les Jackass de ce monde et ainsi de suite. Il y a des choses qui ont changé en 8 ans. Tu sais, à cette heure, des menaces de mort, on niaise plus avec ça. Tu sais, il y en a peut-être qui trouvent qu'on exagère, puis ainsi de suite. Moi, je pense que c'est une bonne chose. À partir du moment où quelqu'un ouvertement menace quelqu'un de connu, menace la famille de quelqu'un de connu, je pense qu'il faut y aller avec des peines exemplaires. Il y a une maudite marge entre « Hey, je pense que politiquement, tu fais un très mauvais travail, et si tu changes pas de discours, je vais tuer ta famille. » Puis commencer, moi, à adresser ces choses-là. Puis peut-être qu'on est devenu plus attentif aussi. On a vu des problématiques de santé mentale où des parents sont allés voir les policiers pour dire « Mon fils, c'est une bombe à retardement actuellement. Venez nous aider. » Bon, dans le cas qu'on raconte, évidemment, ça s'est mal terminé. Peut-être que les policiers n'ont pas suffisamment intervenu rapidement. Mais tout le monde apprend là-dedans, je trouve. Puis pour la région de Québec, cette tuerie-là, ça a été, je pense, un gros wake-up call là-dessus du genre « Oui, ça peut arriver ici aussi. T'sais. On se plaçait un peu à l'écart de toutes ces choses-là à Québec. Denis Lortie s'était rendu trop loin. La nouvelle génération ne connaissait pas cette histoire-là. Malheureusement, chaque génération apprend avec une tragédie. Puis je pense que pour notre génération, à nous autres, ça a été le petit rappel que des affaires de même, ça pouvait arriver n'importe où, puis qu'il fallait peut-être être plus attentif à ce qui nous entoure et aux gens qui nous entourent.
Il faut faire attention avec la peur de l'autre aussi. Ça, des fois, un peu complexe, puis je l'ai vécu de près avec quelqu'un que j'affectionne énormément. Mais je vais me rappeler d'une scène toute ma vie. La personne avait un petit peu trop bu, mettons, ce soir-là. Puis elle est venue qu'à sortir des choses, je pense, qu'elle avait dans sa tête, mais qu'elle disait pas quand elle était à jeun. Puis c'était vraiment teinté d'une peur de l'autre. C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup voyagé, qui n'était pas dans une époque où elle pouvait le faire, mais... C'est venu quand on avait une discussion politique, puis la personne est devenue enragée, mais à un point, elle s'en est attaquée à moi en disant « Quand tu vas venir ici, puis ils vont faire sauter ta famille, tu vas trouver ça bien particulier, puis tu vas changer de discours. » Je me rappelle, ma soeur était à côté. On était dans une salle où il y avait plusieurs personnes. Puis je me rappelle d'être saisie de me dire « Hein, cette personne-là tient un discours que j'aurais jamais cru qu'elle tient. » Donc, qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens quand tu as une méconnaissance de l'autre puis qu'il y en a du terrorisme, il y en a des gens qui vont foutre la merde, il y en a du monde qui vont commettre des gestes qui sont criminels, qui sont épouvantables, mais c'est pas la majorité. Puis dans l'alimentation de la peur de l'autre, des fois, tu vois sur Facebook, puis je pense que c'est pour ça des fois j'ai la mèche courte un peu plus en onde puis j'essaie de faire des nuances puis tout, parce que ne serait-ce que ça me revient tout le temps en tête, cette scène-là, probablement que dans les discours de la personne qui s'est ouverte parce qu'elle était alcoolisée à ce moment-là, il y avait des pistes que j'aurais pu prendre puis ouvrir un dialogue avant que ça se rende là, tu sais.
Il y a des gens qui réagissent très mal au changement. Alexandre Bissonnette a grandi dans un Sainte-Foy qui a radicalement changé en l'espace de 10-12 ans. C'était un quartier blanc,
familial.
Plate. Et en l'espace de 10-12 ans, ça a changé. Est-ce que pendant ce temps-là, lui nourrit sa peur de l'autre, lui nourrit son incompréhension, sa frustration peut-être? Je sais pas comment ça marche, mais t'as beaucoup de gens qui ont peur alors que t'ouvres le journal, puis des crimes blancs de souche, je veux dire, on peut remplir un bottin téléphonique avec ça. Je me souviens d'une vidéo que j'avais partagée sur les réseaux sociaux le lendemain de l'Halloween. Une vidéo où on voyait une caméra de porte.
Avec Giroir?
Non, c'est... mon Dieu. C'est dans une maison de Charlebourg au Beauport.
Okay. Vraiment Halloween normal.
Je pensais que tu parlais
de non, absolument pas ça. Non. C'est cette année. Tu vois une dame passer l'Halloween avec son fils, puis il y a un plat de bonbons, puis c'est servez-vous, prenez-vous un bonbon. Puis là, le kid vient chercher un bonbon, puis là, sa mère a dit non, retourne, vide le plat. Puis moi, je partage ça en me disant tabarnouche, les gens, ça n'a pas de rapport. Et je laisse aller les choses parce que je suis pas tout le temps sur mon Facebook. Puis je reviens quelques heures plus tard, puis je lis les commentaires. Puis moi, j'avais même pas remarqué la couleur de peau de la mère ou whatever.
T'avais puis vu le geste.
Le trois quarts des commentaires, c'était « Ben, regarde. Regarde quoi? Ben, regarde d'où ce qu'elle vient. On sait bien.
Oh. »
Dire des affaires de même, vous avez jamais vu des hommes blancs de souche au club des Jardins du Centre Bell pendant une game du Canadien.
Ou dans un bar.
Tu sais, quand la bouffe est fournie, là.
Oui.
Du monde qui savent pas vivre, là, ouais. Qui se font quasiment vomir. Ah, c'est gratuit. Avez-vous déjà vu des Québécois blancs de souche à Cuba? Ça va être beau. Le racisme à deux scènes, hein? En frais de colonialisme et de colons en lettres majuscules, aussitôt, on donne pas notre place.
Le ratio, puis, mettons qu'on le faisait.
Ça va être beau. Ça va être beau donner des leçons aux autres.
Il y a l'algorithme aussi. Tu sais, quand tu commences à faire des lectures, puis tu reçois tout le temps de l'information qui te nourrit puis qui te conforte dans tes idées, puis tu rencontres des gens sur ton Facebook qui ont à peu près les mêmes idées que toi, tu as l'impression que tu n'es plus le seul à penser de même, mais tu as l'impression que tout le monde pense comme toi.
Le rabbit hole.
Ben, c'est ça. C'est le fameux algorithme. Mais juste pour en revenir, pour l'utilisation des armes à feu, quand il y a des propriétaires d'armes à feu, il y a un cas qui a été médiatisé. Moi, c'est quelqu'un que je connais bien. C'est un retraité de l'armée canadienne maintenant. Puis quand il s'est séparé de sa conjointe, il n'allait vraiment pas entre les deux oreilles. Il perdait la garde de ses enfants. Il se séparait de sa conjointe. Puis sa conjointe, son ex-conjointe, par amour, a dit « Je vais appeler la police parce que j'ai peur que tu te fasses quelque chose avec ton arme à feu. »
Puis je pense que c'est le bon geste à faire.
Il s'est fait retirer. Il n'a pas été heureux au départ de se faire retirer ses armes. Il n'en avait même pas de besoin. Il n'était même pas dans le temps de la chasse. Mm-hmm. Mais c'était comme une insulte pour lui de se faire retirer les armes parce qu'il disait « Voyons, je suis un retraité de l'armée canadienne. Je ne suis pas quelqu'un de dangereux. Moi, j'ai toujours défendu les bombes. J'ai tout le temps fait face aux méchants. » Mais avec du recul, il s'est aperçu que ça l'avait aidé. Fait que si cette histoire-là de la mosquée de Québec, ça peut nous donner ces idées-là, si on a des amis proches qui ne filent vraiment pas et qui sont propriétaires d'armes à feu, un appel à la police, puis ils vont peut-être vous en vouloir au début, mais après ça, ils vont peut-être comprendre le geste des avoir dénoncés puis des avoir retiré les armes pendant quelques semaines.
Petit message aux gens de la mosquée qui semblent déçus de voir que leur journée commémoration, que leur journée porte ouverte, tu sais, année après année, il y a de moins en moins de gens qui se présentent. Consolez-vous en disant que, la discussion, elle a continué. Mm-hmm. La réflexion a continué. On vient d'en parler, là, depuis une demi-heure ensemble. Je pense qu'on a ouvert plein de pistes de discussion, de réflexion. C'est pas parce que les gens y vont plus. La mémoire, la vie est faite comme ça. T'sais, chaque année, on est moins interpellé au niveau émotif, puis on y va peut-être moins avec des gestes concrets. Mais la discussion, elle, a continué. Puis les réflexions, ils continuent encore.
Mais au-delà de ça, Denis, tu sais, un an, cinq ans, 10 ans, 20 ans.
C'est ça.
C'est là où on se rappelle de ce qui s'est passé.
C'est peut-être bête, mais c'est comme ça, là, tu sais.
Ouais, voilà, tout simplement. Hey, on parlait de la stratégie de Geneviève Guilbeault et de la Coalition Avenir Québec de peut-être noyer le poisson dans l'histoire du tramway. On a un ministre de l'Environnement qui semble s'être trouvé une façon de repousser la fameuse échéance là, de la fin des ventes de véhicules à essence.
Qu'est-ce que je t'avais dit? Faites-vous pas de stress avec ça. On va saisir toutes les portes de sortie pour pas remplir notre promesse.
C'est la faute au gros orange, l'autre bord.
Ouais, il va falloir s'ajuster. Hein. Ouais, mais si tu sais pertinemment dès le départ que t'atteindras pas ton objectif. Ah, moi, janvier, résolution, je vais perdre 120 livres. Man, t'en payes 160. Je vais perdre 120 livres. Tu perdras pas 120 livres. Regarde-moi aller. Regardez-nous aller. Je vais perdre 120 livres. Tu perdras pas 120 livres, triple idiot. Dis-nous que tu vas perdre 20 livres sur l'année.
V'là un mois, Benoît Charrette était en pleine page. Il était à côté sur un char électrique. Il était super content avec ses lunettes beaucoup trop grandes pour sa tête. Puis là, il disait, il n'y en aura plus d'essence au Québec en 2035. Vous en trouverez plus. Les stations-service vont se faire rares. Et là, l'orange arrive. Puis là, tout d'un coup, ouais, on va devoir repousser cette date-là. 2035, c'est peut-être un peu trop court. Là.
C'est pas la dernière fois que vous l'entendez, puis c'est pas la dernière excuse qu'on trouve non plus dans ce dossier-là.
Donc, on avait déjà prévu une révision pour 2026, à savoir si la fameuse date du 2035, ça tenait. Là, on est en train de se trouver une bonne raison. Là, c'est Donald Trump. C'est pas le fait qu'on manque d'électricité au Québec, puis qu'on manque de barrages, qu'on manque d'éoliennes pour en produire. Non.
Ou que la promesse de départ était complètement irréaliste et irréalisable.
Mais c'est l'arrivée de Donald Trump qui fait en sorte que la CAQ a pas le choix. Ouais.
Puis Trump, je comprends qu'il emmène large, mais il va avoir le dos très large aussi. Si le tramway se fait pas, ça va être de la faute à Trump. Si le troisième lien se fait pas, ça va être de la faute à Trump. Si le Canadien fait pas les séries, ouais, ça va être dur à coller, mais ils vont l'essayer. Ils vont l'essayer.
Guilbeault qui se fait encore accuser de vouloir passer aux conservateurs. On avait passé un extrait, si tu te souviens bien, de l'Assemblée nationale où, nous autres, c'est des rumeurs qu'on entend autant d'Ottawa qu'à Québec pour ceux qui suivent le fédéral. Elle aurait appelé des jeunes dans l'entourage de Pierre Poilievre pour signifier qu'elle serait peut-être disponible aux prochaines élections fédérales pour embarquer dans l'équipe de Pierre Poilievre. Puis les rumeurs disent, en 30 secondes, ça a été un beau gros non. Mm-hmm. Et après ça, quelques heures plus tard, ça s'est retrouvé à l'Assemblée nationale où Geneviève Guilbeault avait dit non, je n'ai jamais été dans la même pièce que Pierre Poilievre, alors que c'était pas ça la rumeur, c'est qu'elle l'aurait appelé.
C'est ça, la technologie aidant. Tu peux parler quand même à quelqu'un.
Et Québec solidaire qui l'accuse de vouloir faire partie du gouvernement conservateur, qu'est-ce que tu en penses?
Je pense que Geneviève Guilbeault fait bien de mesurer ses avenues. Je pense que c'est quelqu'un qui a été opportuniste dans sa carrière, puis je le dis pas comme un reproche. Je pense qu'il y a du bon opportunisme. Je pense qu'elle en a bien profité. C'est une dame qui a de grandes capacités.
Oui. C'est une des bonnes communicatrices qu'on a eues comme ministre responsable de la grande région de Québec. Tu sais. Jonathan Julien, il est bien gentil. Mais au niveau de la communication, ça n'a rien à voir avec
le capable d'être limpide et clair, mais capable aussi de faire comme les Français. Faire plusieurs phrases, mais pas grand-chose qui en ressort.
Mais ça sort bien. Je vais te donner un exemple. Mettons que je veux ta job ici. Mon objectif, c'est d'avoir ton micro, ta job.
Qu'est-ce qui te motive?
Je travaille plus, j'en fais 5 par jour.
Oui, je sais.
Plus, tu vas être condamné à travailler avec moi, là. Bonne chance.
C'est complètement fictif, c'est trop d'ouvrages, puis tu travailles avec Pascal CV. Mettons que mon objectif à moi, c'est d'avoir ta job. Et qu'à un moment donné, tu annonces à tes auditeurs, « Hey, j'ai re-signé pour les 5 prochaines années. » Allons-y avec un exemple politique. Tu as re-signé pour les 4 prochaines années. Uh-huh. Oui, je vais appeler Énergie. Oui, je vais probablement appeler chez Cogeco. Lui demander, le gros Dupont, il a signé combien de temps encore? Je serais peut-être intéressé après, je sais pas. Mais tu comprends-tu? Ce que Geneviève Guilbeault fait, c'est que...
Bon, faudrait que je charge
9 999 $!
Tabarnak! C'est complètement brûlé, 1 999 $!
Hey, tu le limites bien!
Ouais, j'aime ça être fâché de même. Je le ferais tout le temps si j'avais pas peur d'avoir une action par la tête ou encore pire.
OK, alors postule pas pour la place à Yannick, je peux pas.
Non, mais tu comprends-tu? C'est que dans le cas de Geneviève Guilbeault, je pense qu'elle aspire à être chef de la CAQ, qu'elle aspire à être première ministre, mais à partir du moment où ça se réalise pas à moyen terme...
À matin, elle passe pas dans son comté s'il y a des élections.
Ouais. Fait que c'est peut-être pas le seul téléphone qu'elle a fait. Là,
je disais à Yannick, je suis même pas sûre que, admettons, les gens au fédéral qui sont plus de droite voteraient pour elle. Mm. C'est une cause perdue. Poilievre, il voit pas d'opportunité là-dedans. Je trouve même pas que c'est réfléchi qu'elle en voit une opportunité.
C'est fini, Guilbeault, c'est fini, ta carrière est finie. Tu seras pas numéro 1, tu seras pas numéro 2, tu vas être numéro 2999, ils vont te mettre au vidange, c'est fini. Passe plus de téléphone à Poilievre, ça va pas dire que ta part est une opportunité, il est trop tard ici.
Hey, tu l'as tellement bien! Je peux-tu le mettre à côté? Non, OK, je peux pas le mettre à côté.
Non.
Pourquoi tu voulais te mettre à côté?
Je voulais le mettre à côté.
Non.
Ben, gars, mon père sera pas fru que tu le limites, là.
Personne n'a le goût d'aller, là.
Midi 31. Merci, Denis.
Salut, là. Salut.